Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 15 octobre 2020. Abdourahmane Diallo à la présentation, voici les titres. Les deux principaux candidats de l'opposition à la présidentielle ivoirienne du 31 octobre ont appelé à un boycott actif du processus électoral. Les autorités judiciaires burkinabées annoncent le renvoi devant le tribunal militaire du dossier de l'assassinat de Thomas Sankara, tué lors d'un coup d'État en 1987. Les manifestations contre les violences policières se poursuivent au Nigeria. L'armée met en garde contre les fauteurs de troubles. L'OMS s'inquiète de la remontée des cas de Covid-19 dans le monde. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, les deux principaux candidats de l'opposition ont appelé ce jeudi leurs militants au boycott actif du processus électoral en vue de la présidentielle du 31 octobre. C'était lors d'une conférence de presse de l'ancien premier ministre Pascal Affinguesson et de l'ancien président Henri Konan Bédié. Les précisions de John Lyndon.
Des affiches du président Ouattara avec le slogan « Le meilleur » décliné sous plusieurs formes pour la Côte d'Ivoire, pour les jeunes, pour les fonctionnaires ont fait leur apparition sur des panneaux publicitaires d'Abidjan. Aucune affiche de l'opposition dont les membres répètent inlassablement « non au troisième mandat » n'était visible. Un nouveau signe qu'elle pourrait peut-être se retirer de la course. 4 candidats seulement sont en lice. Alassane Ouattara, 78 ans, l'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans, ainsi que 2 outsiders, Pascal Affinguesson, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, et l'ancien député Kwadio Konan Bertin. Le Conseil constitutionnel ivoirien a en effet rejeté 40 des 44 candidatures, dont celle de 2 figures de la politique ivoirienne, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle en Belgique après son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale, et Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion des années 2000 et ex-premier ministre qui vit actuellement en France et qui fait face aux poursuites judiciaires lancées contre lui en Côte d'Ivoire. L'opposition crie à la forfaiture contre la candidature de M. Ouattara. La loi ivoirienne prévoit un maximum de 2 mandats, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'avec la nouvelle constitution de 2016, le compteur des mandats de M. Ouattara a été remis à 0. De nombreux observateurs redoutent une crise préélectorale ou post-électorale 10 ans après celle de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts et plongé le pays dans le chaos.
Le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, tué lors du coup d'État du 15 octobre 1987, a été renvoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou, selon les avocats de la famille. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le juge d'instruction en charge du dossier a rendu son ordonnance de renvoi devant la chambre de contrôle du tribunal militaire de Ouagadougou, a expliqué Maître Benewende Sankara, l'un des avocats de la famille, à l'occasion du 33e anniversaire de la mort de l'ancien chef de l'État. D'après Maître Sankara, cette annonce de renvoi permet d'affirmer que suffisamment d'éléments ont été réunis pour la tenue d'un procès. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, Thomas Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à 37 ans lors du putsch qui porta au pouvoir Blaise Compaoré. Ce dernier a été renversé par une insurrection populaire en octobre 2014 et vit en Côte d'Ivoire où il a obtenu la nationalité ivoirienne. En plus de M. Compaoré, le général Gilbert Diendéré, condamné pour le putsch de septembre 2015, et 23 autres personnes sont poursuivies pour attentat à la sûreté de l'État, assassinat, faux en écriture publique et recel de cadavres. En février, une première reconstitution de l'assassinat de Sankara s'est déroulée sur les lieux du crime au siège du Conseil national de la Révolution.
Au Nigeria, l'armée a déclaré aujourd'hui se tenir prête à faire respecter l'ordre. Elle a mis en garde ce qu'elle appelle les fauteurs de troubles alors que s'ouvre une nouvelle journée de mobilisation de la jeunesse dans plusieurs villes du pays. Le point avec Jacques Aristide.
De nouvelles manifestations étaient en cours aujourd'hui dans la capitale économique Lagos, où des milliers de jeunes continuaient à bloquer les principaux axes. À Abuja, la capitale fédérale, une foule agitant le drapeau nigérian protestait devant l'Assemblée nationale. Hier, des incidents ont perturbé les marches pacifiques dans les deux villes. Des jeunes armés de bâtons et de couteaux tentaient de disperser les manifestants. Dans un communiqué ce jeudi, le porte-parole de l'armée, le colonel Sagir Moussa, affirme que les militaires se tiennent prêts à apporter leur soutien total au gouvernement pour maintenir la loi et l'ordre. L'armée dit avertir les éléments subversifs et les fauteurs de troubles et réaffirme son engagement pour le maintien de la paix, de la sécurité et de la défense de la démocratie. Depuis plus d'une semaine, des milliers de jeunes se mobilisent sur les réseaux sociaux et manifestent dans la rue contre les violences policières. Les marches se sont largement déroulées dans le calme, mais d'après l'ONG Amnesty International, au moins 10 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées depuis le début du mouvement.
Un haut responsable de l'Union africaine a appelé à explorer le dialogue avec les extrémistes dans le Sahel dans une tribune parue dans le journal suisse Le Temps. Toute idée innovante est la bienvenue pour faire taire les armes en Afrique, en premier lieu celles portées par les terroristes et les extrémistes violents, a fait savoir le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité, Ismaël Shergi. L'accord conclu entre les États-Unis et les talibans afghans le 29 février peut inspirer nos États membres pour explorer le dialogue avec les extrémistes et les encourager à déposer les armes, en particulier ceux qui ont été enrôlés de force, estime-t-il. Cette déclaration intervient alors que le récent échange par le gouvernement malien de quelques 200 détenus contre 4 otages, dont l'opposant Soumaïla Cissé, a relancé les spéculations sur une reprise des contacts esquissés avec les djihadistes. Plus de 10 soldats somaliens ont été tués et plusieurs blessés dans une embuscade près d'un village du sud de la Somalie. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi un responsable militaire. L'attaque a eu lieu mercredi soir dans un village situé près de la ville d'Afgoye, à environ 30 km de la capitale Mogadiscio. Les Shebab ont revendiqué l'attaque dans un communiqué publié par un organe américain spécialisé dans la surveillance des groupes djihadistes. Affiliés à Al-Qaïda, les Shebab ont juré la perte du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lutte contre la pandémie du coronavirus dans le monde, l'OMS avertit que l'Afrique est à un moment charnière et que la situation est très préoccupante en Europe. Plus de détails avec Clairement Gibourg.
Ces 30 derniers jours, les contaminations hebdomadaires sur le continent ont augmenté en moyenne de 7% et les décès de 8% selon les centres africains de prévention et de lutte contre les maladies. L'OMS prévient que le continent est à un moment charnière. L'Afrique du Sud recense presque la moitié des cas, mais le Maroc, la Tunisie et la Libye ont aussi fait état d'importantes hausses des contaminations ces dernières semaines. Situation également très préoccupante en Europe, où l'UE a appelé ses 27 membres à faire le nécessaire pour éviter un confinement généralisé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a quitté aujourd'hui le sommet des dirigeants pour se mettre en quarantaine après un cas de Covid-19 dans son équipe. Le maire de Londres a annoncé de nouvelles restrictions et la France a mis en place un couvre-feu dans 9 grandes villes, un fait sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en Chine, près de 10 millions de personnes ont été testées après la découverte d'un mini-foyer.
Plus de 17 millions et demi d'Américains ont déjà voté par courrier ou en personne, selon un décompte du projet Election de l'Université de Floride actualisé ce jeudi. C'est un record pour ce scrutin très polarisé entre le républicain Donald Trump, qui brigue un second mandat, et du démocrate Joe Biden. Au total, 43 États et la capitale fédérale Washington ont mis en place des systèmes de vote par anticipation pour l'élection. Près de 75 millions de bulletins de vote par voie postale ont été commandés ou envoyés, plus du double des 33 millions de 2016, et les autorités locales ont installé des boîtes aux lettres spéciales ou des points de collecte.
Ici aux États-Unis, à 19 jours de la présidentielle, le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden répondront ce soir en direct aux questions d'électeurs, mais chacun sur une chaîne différente. Le président républicain fera face à des électeurs pendant une heure en Floride sur NBC, au moment où son adversaire démocrate se pliera au même type d'exercice en Pennsylvanie sur une chaîne concurrente ABC. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Au Cameroun, les consommateurs devront payer une taxe de 33% du prix du téléphone ou de la tablette à la sortie d'usine à partir de ce 15 octobre 2020. Les importateurs et autres utilisateurs des terminaux mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, pourront payer ces droits de douane par voie numérique via une plateforme gouvernementale placée sous l'autorité du ministère des Postes et Télécommunications. Ces paiements sont censés ramener annuellement 50 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Au Burkina Faso, les recettes d'exportation d'or ont augmenté de 1420 milliards de francs CFA en 2019, apportant 275 milliards de francs CFA au budget de l'État grâce à la hausse des cours mondiaux. Avec 17 mines industrielles en exploitation, l'or a contribué à 13,13% au PIB en 2019 contre 10,6% en 2018. Le secteur aurifère officiel compte quelque 15 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects. Mais le sous-secteur artisanal ou orpaillage emploie 1,5 million de personnes selon le ministère des Mines. Pour terminer, le G20 a prolongé mercredi de 6 mois le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, durement affectés par le Covid-19. Ce moratoire ira donc jusqu'au 30 juin 2021, au lieu de finir à la fin de cette année comme initialement prévu. Des ONG pensent que le G20 devait soit prolonger le moratoire jusqu'à la fin de 2021, soit annuler les paiements de la dette des pays pauvres.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. La saison de football 2020-2021 a été lancée hier en Guinée. L'AS Kaloum s'est imposé d'entrée 2-1 face à Saint-Toba. Mamadou Bangoura a inscrit le premier but de la saison sur pénalty. Mohamed Koumbassa de Saint-Toba a égalisé sur coup franc. Mais en seconde période, Kaloum a repris l'avantage sur un coup de pied arrêté. Un coup franc savamment exécuté par Aboubakar Iyanga Sila. Deux faits marquants durant ce lancement de la saison. La Ligue 1 s'appellera désormais Ligue 1 Salam et la Ligue professionnelle de football de Guinée a signé un contrat de sponsoring avec le groupe Sonoco pour une valeur de 1,8 million d'euros sur 5 ans. La Sierra Leone annonce 3 cas positifs de Covid-19 dans sa délégation. Le capitaine Oumarou Bangoura, Philippe Kor, préparateur physique et Eric Batilo Fomba, chargé de communication de l'autorité des sports. Ces cas se sont révélés après le match amical contre le Niger et d'après la Fédération Sierra Leonaise de football, tous les autres membres de la délégation sont négatifs. La Sierra Leone a perdu le match 0-1 devant le Niger, une deuxième défaite dans sa trêve après celle face à la Mauritanie 1-2. Bonne nouvelle par contre pour Sadio Mané, déclaré positif au Covid-19 il y a 10 jours. L'international sénégalais s'est déclaré guéri sur son compte Instagram. « Heureux de faire mon retour », a écrit Sadio Mané. Le lion de la Teranga était absent lors de la débâcle de Liverpool devant Aston Villa 7-2. Il a repris le chemin de l'entraînement et sera apte pour le derby contre Everton le 17 octobre. Placé en isolement, Sadio Mané avait déclaré forfait pour les deux matchs amicaux de la sélection sénégalaise contre le Maroc et face à la Mauritanie. Le dernier match des Lions de la Teranga face au Mourabitoun a été annulé en raison de 8 cas positifs au Covid-19 dans la délégation mauritanienne. Ici aux États-Unis, la Ligue nord-américaine de football annonce le report de 2 nouveaux matchs après des cas positifs ou des suspicions d'infection au nouveau coronavirus. Parmi les rencontres décalées, il y a celle opposant Chicago Fire au Minnesota United qui devait avoir lieu hier. Cette dernière équipe avait déjà subi un report de son match face à Dallas ce week-end en raison de la découverte d'un joueur positif au Covid-19. La rencontre entre les Colorado Rapids et les Seattle, programmée également hier, devra aussi se jouer à une date ultérieure, alors que 5 joueurs et 12 membres du staff des Rapids ont été testés positifs au Covid. Colorado a déjà vu 6 de ses matchs reportés. Le club n'a pu rejouer depuis le 23 septembre.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. C'était la liesse ce jeudi à Bangui, capitale de la République centrafricaine. L'armée nationale a paradé avec une dizaine de chars de combat offerts par la Russie, un don vu par de nombreux centrafricains comme un espoir et un début de solution à la crise sécuritaire qui mine encore leur pays. À Bangui, pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
7 heures du matin, heure locale, un autonome russe atterrit sur le tarmac de l'aéroport Bangui-Poko. À son bord, 10 blindés de combat et d'autres objets destinés aux enfants. Ces engins militaires représentent la première vague des 20 chars annoncés par Moscou. Un grand appui visant à rendre redoutable l'armée centrafricaine, selon l'ambassadeur russe Vladimir Titorenko.
Grâce à ces BRDM, l'armée centrafricaine deviendra plus efficace au combat. À son tour, cela devrait contribuer au renforcement des forces de sécurité et au rétablissement du contrôle de l'État sur l'ensemble des territoires du pays. La Russie a l'intention de continuer à contribuer à la reconstruction des forces de défense de la sécurité de la République centrafricaine et à la consolidation de la paix.
Une satisfaction des autorités centrafricaines, Marie-Noël Koyara, ministre de la Défense nationale.
La remise de ces équipements constitue un geste qui emporte avec lui une grande espérance, qui traduit la volonté du chef de l'État, chef suprême des armées, de rehausser les efforts de reconstruction afin de réaliser les principaux objectifs de la loi de programmation militaire et du plan national de la défense, notamment le renforcement des capacités de nos forces armées de défense et de sécurité en tout domaine.
Le long des avenues de Bangui est bordé de monde qui salue avec liesse le passage de ces engins de combat. Nombreux souhaitent que ce matériel militaire soit utilisé pour la reconquête des régions occupées par les groupes armés et non pour la protection des autorités.
Le plus important, c'est d'utiliser ces dons-là contre les groupes armés qui occupent nos territoires.
Ma joie est grande, je ne sais pas comment je peux qualifier quoi, mais j'ai vu que même sur le terrain centrafricain, tout à l'heure, vraiment, c'était une grande manifestation de joie quoi, parce que c'est déjà un facteur qui va aboutir vraiment à la sécurisation de la République centrafricaine.
Le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, qui a personnellement réceptionné ce don, s'en réjouit et remet la gestion à l'armée conformément au plan national de défense. S'agit-il de bon matériel? Difficile de répondre à cette question car 3 de ces véhicules sont tombés en panne dans le cortège. L'armée centrafricaine est en pleine reconstruction après plusieurs années de déliquescence à la suite de crises militaro-politiques. Aujourd'hui, elle est soutenue par les États-Unis, la France, l'Union européenne, la Chine et la Russie. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Guinée, les jeunes représentent plus de la moitié de la population. Leur trouver des emplois sera l'un des chantiers prioritaires auxquels devra faire face le futur président. À 2 jours de la fin de la campagne présidentielle, notre correspondant est allé à la rencontre de certains jeunes à Conakry. Suivons son reportage.
À l'université, je fais économie et là, je me retrouve à vendre des produits dans une boutique.
Aboubakar fait partie des 60% de jeunes touchés par le chômage ou le sous-emploi. En attendant de trouver mieux, ce jeune de 26 ans fait le commerce de détail.
Mes études professionnelles universitaires ne coïncident pas avec l'emploi que j'ai actuellement. Je n'ai pas un bon emploi et puis que rester à la maison, je pense que ça ne satisfait pas exactement tous mes besoins, mais alhamdoulilah quand même, je m'en sors petit à petit.
En 2014, le gouvernement guinéen a lancé le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes pour résorber le taux du chômage chez les jeunes diplômés des universités et institutions de formation technique et professionnelle. Mohamed gère des opérations de transfert de crédit d'appel téléphonique dans un petit conteneur Pour lui, le gouvernement doit faire bien plus.
Je pense que c'est le rôle régalien aussi de l'État d'aider les jeunes, de créer les emplois pour la jeunesse. C'est pas moi seulement mon cas qui me préoccupe, mais aussi j'ai des jeunes aujourd'hui qui sont dans les quartiers qui ne font rien, qui sont là, qui n'ont pas eu cette idée de créer, en tout cas des petites et moyennes entreprises se débrouiller. Mais eux, ils sont là, ils attendent toujours l'État. Donc, j'en demande à l'État de créer les conditions d'emploi pour la jeunesse.
Dimanche, des violences à connotation politique ont été signalées à Cancan, une ville située à plus de 650 km à l'est de Conakry. Une situation que dénonce Ibrahima Khalil, la trentaine, qui appelle à une prise de conscience des jeunes Guinéens.
Ce qui se passe actuellement en Guinée, c'est un peu compliqué et c'est pitoyable aussi pour nous jeunes, les futurs cadres de ce pays. Donc on doit se retenir pour bien comprendre notre candidat dans le sens positif et les accompagner dans ces projets de société.
C'est la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle prévue le 18 octobre. Ce jeune sans emploi a déjà choisi son candidat parmi les 12.
Je pense que la jeunesse doit avoir conscience de la réalité de ce qui se passe actuellement dans le pays. Parce que c'est à eux de décider maintenant l'avenir de ce pays et de savoir surtout bien décider avec qui accompagner dans cette campagne électorale. Vu que j'ai vu beaucoup de pronostics qui tournent vers mon candidat, une fois au pouvoir, il fera en sorte que des entreprises soient créées afin de pouvoir employer tous les jeunes, surtout diplômés. Et vous savez, il y a beaucoup de jeunes diplômés.
5 millions de Guinéens sont appelés à voter dimanche 18 octobre pour élire le président de la République. Et contrairement à la CEDEAO et l'Union africaine, l'Union européenne ne va pas déployer des observateurs en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Cette semaine, le Sénat américain tient des audiences sur la candidature de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis en remplacement de la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée le mois dernier. Les juges de cette cour sont nommés à vie avec un pouvoir considérable et la bataille pour combler le siège vacant est au centre du duel électoral entre le président Donald Trump et son rival, l'ancien vice-président Joe Biden. Les précisions de Patsy Widakuswara et c'est un récit de Jacques Aristide.
Les pros et anti-Amy Coney Barrett donnent de la voix devant la Cour suprême, alors que la juge conservatrice est mise sur le grill par les sénateurs démocrates qui veulent notamment savoir si elle se récusera des affaires susceptibles de peser sur le résultat du scrutin de novembre.
J'appliquerai les critères considérés par d'autres juges avant moi pour déterminer si les circonstances exigent ma récusation ou non, mais je ne peux pas proposer une conclusion juridique pour le moment concernant le résultat d'une décision que je prendrai.
La nomination de juge conservateur est une promesse électorale majeure du président Donald Trump qui la présente souvent en termes idéologiques.
Si Joe Biden et les démocrates prennent le pouvoir, ils augmenteront le nombre de juges à la Cour suprême avec des radicaux d'extrême gauche qui transformeront unilatéralement la société américaine de façon méconnaissable.
Actuellement en retard dans les sondages, M. Trump affirme souvent qu'une éventuelle défaite face au candidat démocrate Joe Biden serait uniquement due à une élection truquée, avec des dizaines de plaintes déjà déposées par rapport au déroulement du scrutin, des résultats serrés dans les États clés pourraient signifier un scénario comme celui vu en l'an 2000 lors du duel électoral entre George W. Bush et Al Gore, avec un résultat décidé par la Cour suprême. Les déclarations de M. Trump et de certains républicains suggérant que Mme Barrett doit être confirmée pour s'assurer que la Cour statue en leur faveur dans un litige post-électoral seraient perçues comme une irrégularité d'après l'expert constitutionnel Adam White.
Ils ont créé des zones d'ombre qu'elle va devoir dissiper, selon moi, grâce à son propre travail à la Cour, pour indiquer très clairement qu'elle ne répond pas au président Trump, qu'elle ne répond à personne sauf à la loi.
Si Mme Barrett est confirmée, il y aura 6 juges nommés par des présidents républicains et 3 par des présidents démocrates. En cas de victoire de M. Biden, des démocrates voudraient qu'il nomme davantage de juges à la Cour suprême pour équilibrer celle-ci idéologiquement, une idée fermement rejetée par les républicains. Le nombre de juges n'est pas inscrit dans la Constitution, mais il y en a eu 9 depuis 1869. Adam White de l'American Enterprise Institute.
Si vous ajoutez plus de sièges à la Cour, des petites coalitions vont se former et elles devront s'engager dans des tractations pour trouver des compromis. Et là, je ne parle pas de troc, cela ne ressemblera plus à des décisions fondées sur des principes, mais plutôt à un ensemble de compromis législatifs.
Monsieur Biden indique qu'il n'est pas un fan du court packing, c'est-à-dire augmenter le nombre de juges. Il a toutefois largement éludé la question, se focalisant plutôt sur l'inquiétude des démocrates, qui croit que la Cour pourrait annuler une loi de l'ère Obama qui élargit l'accès des Américains aux soins de santé.
Cette candidate a déclaré qu'elle souhaitait se débarrasser de la législation sur les soins abordables. Le président veut se débarrasser de la loi sur les soins abordables.
Madame Barrett a insisté qu'elle n'avait aucun programme lié à l'Obamacare ou à d'autres sujets de discorde, dont le droit à l'avortement et le mariage homosexuel.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon, Joselle Morissin et Lionel Gaïma. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Selon le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine ou FuseNet, géré par l'USAID, le Soudan du Sud connaît une autre crise à plusieurs volets. L'ampleur et la gravité de l'insécurité alimentaire aiguë au Soudan du Sud jusqu'en janvier 2021 resteront les plus élevées enregistrées depuis 2014. Les conditions météorologiques dévastatrices et l'instabilité économique font partie du problème, tout comme les conflits violents. Selon le Programme alimentaire mondial, les inondations généralisées juste avant la période de récolte annuelle ont emporté les champs et tué le bétail, aggravant une situation déjà fragile et provoquant la faim, la malnutrition et le déplacement des populations. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement touchés. Dans le même temps, la pandémie du COVID-19 et les mesures préventives nécessaires aggravent la crise humanitaire déjà grave et pèsent sur le fragile système de santé. En conséquence, quelques 7,5 millions de personnes ont maintenant besoin d'aide humanitaire au Soudan du Sud. Le 24 septembre, les États-Unis ont annoncé près de 108 millions de dollars d'aide humanitaire pour la population du Soudan du Sud, y compris les Sud-Soudanais réfugiés dans les pays voisins, lors de l'événement de haut niveau organisé par l'Assemblée générale des Nations unies. Un dialogue avec les 10 principaux donateurs du monde sur les besoins humanitaires mondiaux. L'aide humanitaire des États-Unis fournit une aide alimentaire d'urgence, des services de santé, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et une assistance aux survivants de la violence sexiste au Soudan du Sud, a déclaré le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration écrite. L'aide humanitaire américaine fournit également des activités salvatrices aux quelques 2,2 millions de réfugiés sud-soudanais dans les pays voisins, dont la plupart sont des femmes et des enfants, et aux communautés locales qui accueillent les réfugiés. Les États-Unis fournissent également un soutien au service aérien humanitaire des Nations unies pour le transport des travailleurs humanitaires et de fourniture de secours à travers le Soudan, ainsi que les opérations d'un réseau d'auprès de 30 organisations non gouvernementales. Les États-Unis demeurent le principal donateur d'aide humanitaire tant au Soudan du Sud qu'au niveau mondial, a déclaré le secrétaire Pompeo. Nous continuerons d'être un catalyseur de la réponse internationale pour soulager les souffrances du peuple du Soudan du Sud. Nous apprécions les contributions des donateurs à ce jour, mais nous reconnaissons les besoins importants qui subsistent et appelons les donateurs actuels et nouveaux à apporter des nouvelles contributions ou à respecter les engagements existants de rendre possible cette aide vitale.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.